Alors, on va aller dans notre Bible à Genèse, chapitre 15, les versets 7 à 21. Et il lui dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens afin de te donner ce pays-ci pour le posséder. » Et il dit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et il lui répondit, « Prends une génisse de 3 ans, et une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. » Il prit toutes ces choses, et les partagea par le milieu, et mit chaque moitié vis-à-vis l'une de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Et une volée d'oiseaux descendit sur ces bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Et il arriva, comme le soleil se couchait, qu'un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur d'une grande obscurité tomba sur lui. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache, comme c'est une chose certaine, que ta postérité habitera 400 ans, comme étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle sera asservie aux habitants du pays et sera affligée. Mais aussi, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et après cela, ils sortiront avec de grands biens. Et toi, tu t'en iras vers tes pères en paix, et tu seras enterré en bonne vieillesse. Et en la 4e génération, ils retourneront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. Et il arriva que le soleil étant couché, il y eut une obscurité toute noire, et voici un four fumant et un brandon de feu qui passa entre ces choses qui avaient été partagées. En ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en disant, « J'ai donné ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. » Excusez. Les Kéniens, les Kénisiens, les Cadmoniens, les Hétiens, les Phérisiens, les Réphaïnes, les Amoréens, les Cananéens, les Guirgasiens et les Jébusiens. Alors, on va étudier un petit peu plus en profondeur ce texte-là. Le titre que j'ai donné au sermon de ce matin, « Dieu utilise une alliance pour confirmer la foi d'Abraham. » Alors, on se souvient que dans les évangiles, nous, on le connaît sous le nom d'Abraham, mais il porte encore le nom d'Abraham. On va voir que son nom va être changé un petit peu plus tard. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que la foi d'Abraham, elle avait besoin d'être confirmée, et le Seigneur le fait par un moyen qui est celui de l'alliance. Alors, la foi d'Abraham, il va confirmer sa foi concernant le pays promis, dans les versets 7 à 11. Autrement dit, il lui avait dit qu'il y avait un pays qui était pour lui être donné à lui et à sa descendance, et Dieu va se servir de l'alliance pour confirmer que sa promesse de lui donner un pays sera réalisée. Et on va regarder un petit peu plus tard aussi l'alliance que le Seigneur fait, c'est une institution qu'on va étudier un petit peu plus dans les prochaines semaines. L'alliance, c'est très important de comprendre cet aspect-là dans les Écritures. La deuxième point qu'on va regarder, c'est qu'on va voir la foi d'Abraham qui va être confirmée concernant la semence promise. Alors bien sûr, on sait qu'Abraham commence à prendre de l'âge, sa femme est stérile et il ne voit pas vraiment comment il peut avoir une descendance. Et on va voir que Dieu avait besoin de lui confirmer « qu'est-ce que je t'ai promis? Tu vas l'avoir. » Alors quelque part, Dieu va se servir de cette cérémonie de l'Alliance-là pour lui confirmer ces choses-là. Et le troisième point qu'on va regarder, c'est la foi d'Abraham concernant l'exécution des choses promises. Dieu, quand il promet des choses, bien sûr, dans le temps et dans l'espace, ça s'exécute. Mais excepté que pour Abraham, il devait penser que c'était pour s'exécuter plus rapidement qu'il a cru. Mais des fois, c'est la même chose dans nos vies. Dieu nous fait des promesses, il nous a promis qu'il reviendrait. Et des fois, on a hâte qu'il revienne. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et Abraham avait besoin de se faire rappeler ça par Dieu. Ce n'est pas à cause que ça prend du temps que ça n'arrivera pas. Alors, exactement. Alors, dans notre premier sermon sur Genèse 15, qu'est-ce qu'on avait regardé? On avait vu que Dieu, on était émerveillé devant la bonté et la grâce souveraine de Dieu à l'égard de Abraham, le père des croyants. On se souvient que dans le verset 6 de Genèse 15, on avait lu « Et Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa à justice. » Alors, on s'émerveille de la grâce de Dieu. Et la foi qu'Abraham avait eue pour que Dieu lui impute à justice, c'était la foi au Messie à venir. Lui, il devait penser que c'était pour arriver dans ses jours avant, mais Dieu lui fait savoir. Aujourd'hui, il lui fait savoir que non, ça ne sera pas tout de suite. Son peuple va aller en Égypte pendant 400 ans. Et le Seigneur dit, éventuellement, je vais vous libérer. Et la séquence nécessaire d'individus qu'il y a entre lui et le Messie va arriver. Mais pour lui, Abraham avait besoin de se faire confirmer cela par Dieu. Alors, c'est une étape importante dans le développement de sa foi. La foi, pour se développer, se doit d'être affirmée. Alors, c'est la même chose dans nos... Pourquoi on l'appelle le Père des croyants? Nous aussi, le Seigneur nous a donné la foi initiale, la foi du début de notre salut. Mais si on veut que la foi augmente, le Seigneur veut que notre foi augmente, alors il se sert de moyens pour la fortifier. Puis des fois, les moyens, comme dans le cas d'Abraham, te faire dire que tu vas avoir une semence puis que le Messie va venir par ta semence, alors que toi, tu es rendu un vieillard, et que ta femme est stérile, à quelque part, ça pose un problème pour ta foi. Alors, Dieu avait besoin de venir reconfirmer la foi qu'il avait aux promesses que Dieu lui avait faites. Alors, le Seigneur, c'est le Dieu de l'Alliance. Le thème de l'Alliance, c'est un thème très important qu'on a besoin d'étudier à partir du livre de la Genèse et comment ça se développe durant tout l'Ancien Testament et comment aussi la Nouvelle Alliance, quand Jésus est venu, comment tout cela, ces affaires-là, s'articulent ensemble. C'est très important. Et éventuellement, quand on va passer sur la section Alliance de la 1689, on va vraiment aller plus en profondeur sur ces choses-là. C'est essentiel pour la compréhension de l'Ancien et du Nouveau Testament et comment l'un est relié à l'autre. Alors là, le Seigneur se sert de l'Alliance, la cérémonie qu'on a vue tantôt, le partage des animaux, pour fortifier sa foi et pour lui rappeler des choses concernant la promesse qu'il lui a faite. Et une des choses, dans les promesses qu'il lui avait faites, c'est de lui donner un pays. Alors, la deuxième chose, c'est de la rassurer que, par l'Alliance, que Dieu s'engage solennellement et prophétiquement pour la venue future de sa semence, malgré les difficultés. On va voir que, pour lui, ce n'est pas évident de comprendre cela, là. Que oui, il va avoir un fils, et que par ce fils-là, la descendance va être assurée, et que ça va se rendre jusqu'à la venue de Jésus. Le Messie, c'était loin, là, dans son cas, là. C'était très loin. Mais il croyait au Messie, quand même, à venir. Mais Dieu a un peu comme pitié de sa foi qui a besoin d'être confirmée. Oui, ça va arriver, mais pas nécessairement autant que toi, tu aimerais que ça arrive. Et la troisième idée, c'est qu'il va lui expliquer un peu la signification de l'Alliance et de la portée de l'Alliance. Le mot-clé du passage qu'on étudie aujourd'hui à partir de 7, c'est vraiment le verset 18, le mot « Alliance » est mentionné. Donc, c'est le mot-clé du passage. La nature essentielle des alliances de Dieu s'explique ainsi. Dieu rentre dans une relation particulière avec des êtres humains, il leur fait des promesses et il s'engage par serment à les honorer. Alors, ça avait commencé un petit peu avant, là on parle de l'Alliance, la première fois que le mot est mentionné, c'est dans Genèse 15, verset 18. Mais avant Dieu, les promesses avaient été faites, mais ça ne portait pas le nom d'Alliance. Mais quand on étudie l'Alliance dans son ensemble, on voit que ça avait commencé bien avant Genèse 15. Par exemple, dans Genèse 12, verset 1 à 3. Or, l'Éternel avait dit à Abraham, « Sors de ton pays et d'avec ta parenté et de la maison de ton père et viens au pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation et te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, c'est une partie de l'alliance. Le mot alliance n'est pas utilisé, mais la notion d'alliance était déjà dans ce passage-là. Et quand on va dans Genèse 13, versets 14 à 18, ça nous dit, « Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève maintenant tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le septentrion, le midi, l'orient et l'occident, car je te donnerai et à ta postérité pour jamais tout le pays que tu vois. Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre, que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, il comptera aussi ta postérité. Lève-toi donc et te promène dans le pays, en sa largeur, en sa longueur, car je te le donnerai. Abraham, donc, ayant transporté ses tentes, alla demeurer dans les plaines de Mamré, qui est en Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. » On voit que ça se développe, ça commence en 12, 13, 15, on va revenir dans 17. Tout le thème de l'Alliance se développe beaucoup dans le livre de la Genèse et ensuite dans d'autres livres. On va voir cela un peu plus tard. Alors, Dieu va confirmer ses promesses d'alliance au cours d'une cérémonie particulière. Des fois, quand on lit ces passages-là, des fois, on ne s'arrête pas à penser qu'est-ce que c'est exactement, ça, cette cérémonie que de vouloir tuer des animaux, les couper en deux, et de passer entre les animaux. Pour les gens de l'époque, c'était comme une façon de dire, si je ne respecte pas ma parole en passant entre les animaux, qu'il m'arrive en voulant dire la mort. Mais si vous regardez le passage attentivement, normalement, c'est les hommes qui faisaient ça. Disons, deux nations, et ils prenaient des animaux comme ça, ils coupaient en deux. Puis quand tu passes entre les deux, c'était une façon de dire, je m'engage solennellement et sur le prix de ma vie à réaliser et à respecter l'engagement que je suis dedans. Mais si vous lisez le texte attentivement, et c'est là des fois qu'on n'est pas assez attentif, le texte de ce matin, il n'y a pas les deux parties qui passent. Il y a juste Dieu qui passe entre les animaux. Alors, c'est une promesse qui démontre que Dieu s'engage solennellement à ce qui a été promis auparavant. Il va l'exécuter. Et il ne demande pas à Abraham de passer. Parce qu'Abraham était déjà dans un sommeil. On va le voir un petit peu plus tard. Mais c'est important de voir le côté solennel et le côté que Dieu s'engage en utilisant une coutume qui était pour les hommes, et il le fait pour démontrer à Abraham ce que je t'ai promis, ça va arriver. Alors, le Seigneur veut confirmer et fortifier la foi d'Abraham par plusieurs choses. On a mentionné tantôt, le point 1, c'est vraiment la foi d'Abraham concernant le pays promis. Dans le verset 7, alors Dieu déclare à Abraham son dessein divin, son intention. Il lui dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens afin de te donner ce pays pour le posséder. » Il lui rappelle que dès le début, il lui avait fait une promesse pour lui donner un pays. Et il lui dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays afin de te donner ce pays-ci. » Donc, le but, pourquoi il l'a fait sortir d'Ur des Chaldéens, c'était que il puisse posséder ce pays-là. Mais Abraham a besoin de se faire rappeler par Dieu que ça va se réaliser. Alors, il rappelle à Abraham qui il est. Il est Jéhovah. Dans le texte hébreu, quand ça dit « Je suis l'Éternel », dans le texte hébreu, c'est « Je suis Jéhovah ». Il est en train de dire, et le nom Jéhovah dans les Écritures, ou le tétragramme, là, c'est un nom qui implique que Dieu est en relation avec son peuple. Donc, c'est le Dieu de l'Alliance. Quand Dieu utilise le nom Jéhovah ou le tétragramme dans les Écritures, c'est souvent pour indiquer qu'il est en relation avec son peuple. Et il dit « Je suis l'Éternel ». Donc, il rappelle à Abraham qui il est, Jéhovah, le Dieu de l'Alliance avec son peuple. C'est la foi qui doit regarder en haut. Autrement dit, quand tu as un problème avec ta foi, regarde pas autour, regarde pas en arrière, regarde en haut, tout le temps. Il dit « Je suis l'Éternel ». Il rappelle aussi à Abraham ses accomplissements et ses actions miséricordieuses jusqu'à ce point précis de sa vie. Autrement dit, il est parti de là-bas, qui est un pays qui était bourré d'idolâtrie. Et il l'a fait sortir d'à peu près toutes les difficultés qu'il a rencontrées, dont les guerres, quand on avait mentionné qu'il y avait eu les guerres avec les rois. Il l'a fait être victorieux, alors que normalement, le groupe d'hommes qu'il avait n'aurait pas été suffisant pour avoir la victoire. Dieu, quand il veut te fortifier ta foi, souvent, il fait appel au souvenir. Souviens-toi de ce que j'ai fait jusqu'ici. C'est important pour lui de se réaliser ça. Dieu l'a fait sortir d'un pays rempli d'idolâtrie. Il l'a protégé lorsqu'il a menti au sujet de son épouse Sarah, en disant à Pharaon qu'elle était sa sœur. Il a pourvu ses besoins, lui a donné la victoire contre les rois, etc. C'est la foi qui doit regarder en arrière. C'est intéressant l'idée, hein? Il faut regarder en haut. Tu as un problème avec ta foi, regarde en haut premièrement. Ensuite, rappelle-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi à venir jusqu'ici. Alors, il rappelle à Abraham que c'était une chose prévue dans son plan de lui donner un pays. Abraham a besoin d'être rassuré, car les difficultés d'accomplissement, à ses yeux, lui semblent insurmontables. Donc, la foi qu'il doit regarder en avant. Un peu comme nous, quand le Seigneur nous dit qu'il va revenir, on regarde en haut, on regarde en arrière ce qu'il a fait à venir jusqu'ici, mais on sait qu'il va revenir. On regarde en avant aussi. Donc, c'est vraiment regarder en haut, regarder en arrière, regarder en avant. Dans le verset 8, Abraham exprime son désir d'obtenir un signe de la part de Dieu. Quand il lui dit, dans le verset 8, et il dit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Donc, c'est comme une façon de dire, « Il me semble que ça n'a pas de bon sens, mais il me semble que ça ne se réalisera pas. » Comment, c'est quel signe que tu vas me donner pour m'assurer que ce que tu m'as dit, ça va se réaliser? Alors, sa requête à Dieu n'est pas l'expression d'un manque de foi en la puissance divine, mais plutôt une volonté que Dieu fortifie sa foi. On sait que Canaan, dans les Écritures, est un type du ciel. Alors, si c'est un type du ciel, c'est comme un symbole du ciel, rentré dans la terre promise, c'était quelque chose pour lui d'important de se faire dire que oui, ça, c'était pour se réaliser. Troisième chose, dans le verset 9 à 11, c'est la foi qui doit regarder symboliquement à l'avenir du sacrifice sanglant du Messie. Alors, on voit qu'à l'intérieur de ce passage-là, il y a un rappel au besoin de tuer une victime. Parce que pour passer entre les animaux, il faut que tu les tues, il faut que tu les coupes en deux. Donc, c'est vraiment l'idée du sacrifice à venir qui est présent déjà symboliquement dans ce passage-là. Dans le verset 9 à 11, il lui répondit, là, c'est Dieu qui parle. Donc, lui dit, à quoi connaîtrai-je que tu vas me donner le pays? Et Dieu lui répond, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. Donc, vous regardez ça, il y a 3 animaux, 2 oiseaux. Il prit donc toutes ces choses et les partagea par le milieu et mit chaque moitié vis-à-vis l'une de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Et une volée d'oiseaux descendit sur ses bêtes, mais Abraham, c'est-à-dire les chassa. Alors, plusieurs commentateurs voient dans les animaux proposés par le Seigneur un aspect particulier de l'œuvre de Jésus-Christ. La génisse, Jésus-Christ le serviteur, la chèvre, Jésus-Christ qui nourrit, le bélier, Jésus-Christ le puissant. La tourterelle et le pigeon représentent Jésus-Christ et le tendre soin qu'il a envers les siens. Le verset 11, lorsque ça nous dit qu'après avoir séparé les animaux, il y a eu une volée d'oiseaux qui se sont descendus pour, comme des oiseaux de proie, fort probablement, pour aller comme manger ça. Et ça dit que, verset 11, ça dit et une volée d'oiseaux, mais et ça dit qu'Abraham les chassa. Donc, qu'est-ce que ça représente symboliquement? Le verset 11 symbolique les difficultés que vont rencontrer les croyants dans leur marche chrétienne, et comment ces difficultés-là se doivent d'être rencontrées et comment elles se doivent d'être vaincues. Par exemple, dans nos vies, à nous, ça va être les attaques de la puissance de l'air, les démons. On sait que les démons vont nous attaquer toute notre vie sans arrêt, comme individu, comme église locale, comme église universelle un peu partout sur la terre. Les persécutions, les oppressions par les nations contre les croyants, c'est un peu comme l'équivalent des oiseaux qui cherchent à vouloir briser le symbole que le Seigneur est en train de vouloir établir. La lutte persévérante pour que Abraham réussisse à les chasser. Imaginez une volée d'oiseaux qui descend, des rapaces, là, qui essaient d'aller manger les oiseaux, les bêtes qui étaient déjà... Il fallait qu'ils soient vraiment dans une lutte persévérante. Alors nous aussi, avec les difficultés que Dieu va nous envoyer pour fortifier notre foi, nous aussi, il y a un aspect de lutte persévérante. Et bien sûr, il y a l'aide divine, parce que c'est Dieu qui permet, en fin de compte, qu'il réussisse à aller chasser les animaux. Dans les Écritures, quand on étudie le thème des alliances, on a plusieurs exemples d'alliances dans les Écritures. Un des rites que les anciens de cette époque-là utilisaient pour sceller un engagement, c'était justement cette cérémonie-là. Dieu s'abaisse à utiliser un moyen que les hommes utilisent pour leur démontrer que ce qu'il a promis, il s'engage à le faire, en passant entre les animaux, et à remarquer que Abraham, lui, n'a pas passé entre les animaux. Donc, c'est une alliance, un engagement, une promesse unilatérale, juste lui qui l'a faite, juste Dieu s'est engagé. Autrement dit, l'homme là-dedans, il avait juste à croire que Dieu le ferait. Alors, les hommes, pour sceller une alliance, et ils faisaient en sorte que des animaux étaient partagés, et pour dire « oui, on s'engage à respecter notre parole », ils passaient entre les animaux, et le symbole de ça, c'était que si je ne respecte pas ce que je dis, ben que la mort tombe sur moi. Alors, le Seigneur, il s'engage, on sait que le Seigneur ne ment jamais. Mais pourquoi il le fait? Il le fait pour fortifier la foi d'Abraham. Dans Jérémie, au chapitre 34, les versets 18 et 19, on a un exemple où Dieu nous parle des alliances comme ça qui se faisaient par ce moyen-là. Jérémie 34, versets 18 et 19. Le Seigneur dit, « Et je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance et qui n'ont point effectué les paroles de l'alliance qu'ils ont traitées devant moi lorsqu'ils sont passés entre les deux moitiés du veau qu'ils ont coupé en deux. » C'était une tradition de ce milieu oriental-là à cette époque-là. Et Dieu lui fait un reproche dans Jérémie et dit, « Vous êtes engagé, mais vous ne l'avez pas respecté. » Il dit, « Lorsqu'ils sont passés entre les deux moitiés du veau qu'ils ont coupé en deux. » Et verset 19, « Les principaux de Juda et les principaux de Jérusalem, les eunuques et les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les deux moitiés du veau, je les livrerai, dis-je, entre les mains de leurs ennemis et entre les mains de ceux qui cherchent leur vie. Et leurs corps morts seront pour viande aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre. » Alors, Abraham obéit aux ordres de Dieu et attend de voir quel signe Dieu va lui envoyer. Il n'a pas encore vu la passer entre les animaux, mais on va voir que les versets plus tard, il va nous montrer qu'il va passer entre les animaux. Alors, concernant la semence promise, on l'a déjà regardé dans les leçons passées. Qui était la semence promise à Abraham? Galates 3, 16, on avait dit, « Et la semence, c'est Christ. » La semence qui est promise à Abraham, c'est Christ. Mais il fallait qu'Abraham voie comment ça pouvait se réaliser alors qu'il était dans des difficultés très grandes. Lui-même était rendu trop vieux et sa femme étant stérile, il ne voyait vraiment pas comment c'était pour arriver. Alors Dieu vient se servir d'une cérémonie, d'un rite humain pour montrer que lui, il s'engage à passer entre les animaux. Alors, ça dit dans Genèse 15, versets 12 à 17, « Et comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une terreur, une obscurité profonde tomba sur lui. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartient point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de préparer la foi d'Abraham qui va être emmené en Égypte, que le, sa descendance va être emmenée à l'Égypte. Autrement dit, il est en train de lui montrer qu'il va y avoir un délai assez important. C'est beaucoup plus que 400 ans, mais il commence à y en montrer pas trop long. Il dit, ça va, ta descendance va aller en Égypte, et éventuellement, je vais les juger, et ils vont sortir d'Égypte, et à quelque part, ça va se réaliser. Et dans le verset 14, ça dit, « Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. » Ça, vous vous souvenez de ça, dans Exode, qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur a permis, avec les 10 plaies d'Égypte, qu'ils puissent finir par sortir d'Égypte, et le Seigneur avait mis, disposé les Égyptiens à leur donner des biens pour qu'ils puissent sortir, pas les mains vides, autrement dit. Autrement dit, ils ont été exploités pendant 400 ans. Dieu permet qu'ils soient comme récompensés en accumulant, en recevant une partie des richesses de l'Égypte. En verset 15, « Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. » Il est en train de le préparer à l'idée qu'il ne verra pas l'accomplissement de son vivant. Parce qu'il lui dit, « Et toi, tu t'en iras avec tes pères. » Autrement dit, durant, tu ne t'offres pas pendant tous ces 400 ans-là. Il dit, « Toi, tu vas mourir et tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. » Et là, il leur dit dans le verset 16, « Et à la quatrième génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité de l'Amoréen n'était pas encore à son comble. » Autrement dit, Dieu attend que l'iniquité des Amoréens soit à son comble pour les juger et pour faire de la place, pour qu'ils puissent éventuellement prendre la place qui leur avait été promise. Et dans le verset 17, c'est là que « Et lorsque le soleil fut couché, donc, il y eut une obscurité épaisse, et voici, il y eut une fournaise fumante et une flamme de feu qui passa entre les chairs partagées. » Et vous ne voyez pas les versets dire qu'Abraham a passé. Il dormait, comme ça dit dans le texte. S'il dormait dans le texte, Dieu veut lui montrer, probablement que Dieu lui a montré en rêve, que lui seul a passé. Donc, autrement dit, c'est une alliance que lui s'engage et qui ne demande pas la collaboration d'un être humain. Il va le faire, qu'est-ce qu'il a promis. Alors, bien entendu, le Seigneur va utiliser un rite d'alliance, qui est une coutume orientale utilisée par les hommes pour sceller leurs engagements et leurs promesses. Il va le faire, cependant, différemment de ceux que les hommes font. Lui seul va passer entre les chairs partagées, et ça signifie quelque chose. Ça signifie que son engagement est inconditionnel. Pour réaliser sa promesse, il ne demande pas quoi que ce soit à Abraham. Il dit, « Moi, je passe et ça garantit que je m'engage à ce que ça va se réaliser. » Alors, ça l'engage l'Éternel seulement. Bien souvent, on lit ces textes-là, quand on les lit trop rapidement, on passe à côté de grandes vérités. On a besoin de saisir que Dieu est en train de faire quelque chose d'important pour lui. Alors, bien sûr, dans cette alliance-là, qui est en train de lui donner, il y a des aspects prophétiques. Écoute, ton peuple va aller pendant 400 ans en Égypte. Un jour, je vais juger. Un jour, ils vont sortir. Il est en train de lui montrer l'avenir. Il est en train de lui montrer que même si toi, tu n'es pas là, ce que je t'ai promis, ça va se réaliser malgré tout, malgré les difficultés. Alors, le Seigneur va faire tomber un profond sommeil sur Abraham, et durant ce sommeil-là, l'Éternel va lui révéler, c'est-à-dire plusieurs vérités. Une prophétie qui a 7 aspects. On va les regarder. Premier aspect, que ses descendants seront étrangers dans un pays étranger. Et si on irait voir les versets, on n'ira pas ce matin, là, mais si on irait voir les versets, je pourrais vous montrer tous les versets dans Genèse où ce que Dieu a promis, c'est littéralement accompli. Comme par exemple que ses descendants seront étrangers dans un pays étranger. L'accomplissement de ça, vous le voyez dans Genèse 46, versets 2 à 4. Autrement dit, le peuple d'Israël est allé en Égypte tel que Dieu lui avait prophétisé. Deuxième aspect de ce que Dieu lui dit, c'est que ses descendants seront asservis et opprimés. Faites juste relire votre Exode, au début du livre d'Exode. Est-ce que le peuple d'Israël est allé? Ben oui, il est allé. Alors, dans Exode 1, versets 7 à 14, vous voyez l'accomplissement de ce que Dieu lui dit concernant les 400 ans que le peuple va aller en Israël. Troisième chose, il leur dit la durée. Ça va durer 400 ans. Et on a l'accomplissement de cela dans Exode, chapitre 12, verset 40. Alors, souvent, on lit ça rapidement, mais quand on s'arrête pour examiner le contenu et de le diviser, souvent, on ne va même pas vérifier dans quel passage ça s'est accompli, mais ça s'accomplit tout le temps. Alors, la quatrième chose, le Seigneur lui dit qu'il jugerait lui-même cette nation-là. Bien sûr, il s'est servi de Moïse, mais c'est le Seigneur qui donnait tout le pouvoir à Moïse pour tout ce qui est arrivé avec les 10 plaies d'Égypte et ces choses-là. Donc, l'accomplissement s'est fait, qu'il jugerait lui-même cette nation, dans les chapitres 7 à 12 du livre de l'Exode. Cinquième chose qui est mentionnée, dans le verset 15, qu'Abraham serait épargné, autrement dit, dans toute cette période-là, Abraham ne mourrait pas, il va mourir de mort naturelle. Il irait en paix vers ses pères et enseveli dans une heureuse vieillesse. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent à quel âge que Abraham est mort? 175 ans. 175 ans. Et il était, au moment qu'on se parlait la semaine dernière, il était rendu quelque chose comme 175. Et ça a pris encore un autre 25 ans avant qu'il ait le fils promis que Dieu lui avait dit. Son fils, le fils de sa chair, là, pas un serviteur. Là. Ça a pris 25 ans. Et Dieu lui dit, tu vas vivre encore. Et il a vécu, parce qu'on peut le déterminer par les Écritures, l'âge est déterminé dans les Écritures. À 175 ans, on voit ça dans Genèse 25, les versets 7 et 8. Alors, il y a 75 ans, il est en train de se faire dire qu'il va avoir un fils, mais lui, il pense avoir arrivé bientôt. Ça a pris 25 ans. C'est là que ça nous montre que quand il s'agit des choses de la foi, il faut être patient parce que les temps de Dieu ne sont pas le temps des hommes. Et le Messie est arrivé, comme promis, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de centaines d'années après. Mais il fallait que Dieu lui confirme que tout ce qu'il lui avait promis était pour arriver. Et après, dans le verset 16, il lui dit que ça va prendre 4 générations pour que Israël retournerait en Canaan. Et là, on a des accomplissements de ça dans Exode 6, versets 16 à 20. Et les 4 générations, on peut même mettre des noms sur les noms, on pourrait dire les chefs des générations. On a Lévi, on a Kehat, on a Amram, et on a Moïse et Aaron. Donc, à quelque part, quand Dieu dit que ça va prendre 4 générations, ça l'a pris 4 générations. On peut déterminer par les Écritures que ça s'est accompli à la lettre. Et dans le verset 14, il lui avait aussi mentionné qu'il sortirait avec des grandes richesses. L'accomplissement se voit de ça dans Exode 12, versets 35 et 36, et le psaume 105, verset 37. Autrement dit, Dieu est en train de dire, quand je vais vous faire sortir d'Égypte, là, tout le travail qu'on vous a exploité honteusement, je vais permettre que quand vous allez sortir d'Égypte, vous allez être compensé pour tout cela. Alors, il y a des richesses d'Égypte qui leur ont été données. Et Dieu lui faisait la promesse de ça. Et on peut aller voir des Écritures et on voit que tout ce qu'il lui a promis, c'est arrivé. Alors, Dieu veut certainement montrer à Abraham que des grandes souffrances vont précéder l'entrée en Canaan. Il veut lui faire voir aussi qu'il est miséricordieux envers les nations qui seront chassées de Canaan. Et c'est dit par la phrase « car l'iniquité de l'Amoréen n'est pas encore à son compte ». Ça veut-tu dire qu'il n'avait pas des iniquités chez les Amoréens? Il n'avait, mais Dieu est d'une patience, mais d'une patience. Mais quand le marteau tombe, comme on dit, là, ça tombe. Alors, il lui dit que ce n'est pas encore à son compte. Le Seigneur est toujours très patient, mais le jugement envers ceux qui pêchent finit toujours par se manifester, bien entendu. Alors, le Seigneur ratifie son alliance solennelle et inconditionnelle par un grand signe. C'est important de le réaliser quand on relit ce passage-là. Et lorsque le soleil fut couché, dans le verset 17, il y eut une obscurité épaisse, et voici, il y eut une fournaise fumante et une flamme de feu qui passa entre les chairs partagées. Dieu seul passe entre les animaux partagés sous la forme d'une fournaise fumante ou ardente ou et d'une flamme de feu. Dans les Écritures, le feu et la fumée sont souvent associés à la présence divine. On pourra voir plusieurs exemples de ça dans les Écritures. Alors, par le rite de l'alliance que le Seigneur est en train de réaliser avec son serviteur, le Seigneur indique d'une façon saisissante qu'il est au milieu de son peuple et qu'il donnera certainement le pays aux descendants d'Abraham. Par le geste divin de passer entre les bêtes, de partager, il témoigne de façon forte de sa résolution de tenir ses engagements et de tenir ses promesses. Dans cet incident, Dieu condescend à se servir d'un rite d'alliance pratiqué par les hommes pour montrer à Abraham que rien ne l'empêchera d'accomplir sa promesse. Si on ne fait pas le lien aussi pour voir le côté sanglant puis le côté sacrificiel que la chose demandait, qui bien sûr a un rapport avec Jésus-Christ, le rite souligne trois choses. D'abord, l'initiative de Dieu, c'est Dieu qui demande que des animaux soient sacrifiés. Jésus-Christ était sacrifié. On le compare à quoi dans les Écritures? À un agneau. Voyez-vous? Il faut faire le lien. Parce que quand on lit les Écritures et qu'on ne voit pas Christ, on manque le bateau un peu parce que Christ est partout dans les Écritures. On parle toujours de lui, soit de façon directe, soit de façon indirecte, soit de façon symbolique. Deuxième chose que le rite souligne, c'est la part de Dieu dans l'Alliance, car il est le seul acteur dans ce rite. Après avoir partagé les animaux en deux, Abraham devient passif. Il l'observe, mais ne participe pas. Il entend les déclarations solennelles de Dieu concernant la possession du pays. Dans l'Ancien Testament, cette promesse se réalise sous les règnes de David et de Salomon. Alors, si on veut savoir si Dieu a réalisé sa promesse de donner le pays à Abraham, il faut aller bien plus loin dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'on voit, par exemple, dans 1 Roi, chapitre 4, verset 21, que l'Éternel a accompli sa promesse de donner le pays à Abraham. Et la troisième chose que le rite souligne, c'est que la mort en sacrifice est associée à la conclusion de l'Alliance. Voyez-vous, pour que Dieu puisse faire passer entre les animaux, il fallait qu'il y ait des animaux qui aient été sacrifiés. Ça a un lien, bien sûr, avec le symbolisme de la mort de Christ. Alors, cette affaire-là va devenir beaucoup plus évidente, par exemple, lorsque l'alliance au mont Sinaï va se réaliser avec lorsque Dieu va donner le décalogue aux hommes ou les 10 commandements. Mais on voit que l'alliance dans les Écritures, c'est quelque chose qui se développe tranquillement, qui se développe, qui se précise de plus en plus, plus on approche de son accomplissement. Alors, on sait que le Seigneur a promis une nouvelle alliance. Ça, c'est l'ancienne alliance, et on va voir tout au cours de l'Ancien Testament qu'elle se développe. Elle se développe et elle se précise concernant Christ, où il viendrait, comment ça se ferait, par quels moyens, etc. Et quand la nouvelle alliance se réalise, elle se réalise quand? La venue du Seigneur, c'est quand que le Seigneur est venu au monde. Alors là, Seigneur, là l'accomplissement de la promesse à Abraham s'est réalisé là, en très, très, très grande partie. Où, dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait fait une promesse qui aurait une nouvelle alliance. Donc, on parle souvent dans les Écritures, Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais on pourrait traduire Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Alors, quand le Seigneur avait fait une promesse au peuple, qu'il enverrait une nouvelle alliance. Ça s'est fait en quel endroit? Vous souvenez-vous de ça? Jérémie, chapitre 31, les versets 31 et 34, où Dieu avait dit qu'il y aurait une nouvelle alliance, que c'est lui-même qui s'en occuperait. La nouvelle alliance, c'est l'alliance qui ne demandait plus du sacrifice d'animaux, mais Christ était l'accomplissement parfait et total qu'on voit, par exemple, dans Hébreux, chapitre 8, les versets 7 à 13, où on parle justement de l'accomplissement de la nouvelle alliance que Dieu avait promise à son peuple dans Jérémie 31. Jérémie 31, là, c'est un passage très important parce que le Seigneur est en train de préparer son peuple à l'arrivée de Jésus-Christ et que ce serait en lui que les promesses qui ont été faites se réaliseraient. Alors, on voit que la même chose pour l'accomplissement de la loi. Avant, il y avait les animaux qui se devaient d'être tués. Maintenant, Jésus, quand il est dans les Écritures, dans le livre d'Hébreux, ça dit que lui seul assume notre salut dans le sens qu'il prend notre châtiment à notre place et dans le sens qu'il accomplit la loi à notre place. Et donc, il est le seul, lui aussi, qui réalise, un peu comme Dieu faisait là, pour les animaux dans le passage de Genèse 15. Maintenant, dans les versets 18 à 21, on voit que le Seigneur il veut expliquer à Abraham la signification de l'alliance. Dans 18 à 21, ça se dit « En ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en disant « J'ai donné ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. » Et là, il mentionne les nations qui se devront d'être tassées de là. Puis là, il leur dit « Les Kéniens, les Kénisiens, les Cadmoniens, les Hétiens, les Phérisiens, les Réphaïms, les Amoréens, les Cananéens, les Guirgasiens, les Jébusiens. » Autrement dit, il dit « Un jour, ce que je t'ai promis, ça va se réaliser et ces nations-là seront enlevées pour laisser la place au peuple d'Israël comme j'ai promis. » Alors, l'alliance est ratifiée par un personnage, pas deux personnages. Les anciennes alliances se faisaient soit deux hommes ou soit deux nations qui faisaient cette cérémonie-là dans le but de dire « oui, on va accomplir notre promesse ». Mais Dieu ici fait il passe lui seul entre les pièces. Alors, Dieu confirme de façon solennelle que sa promesse est scellée, parce qu'en faisant ça, tu faisais une promesse, mais les hommes, on sait que chaque fois qu'ils prenaient des alliances, ils finissaient toujours par tomber puis pas respecter leur alliance. On sait, les hommes, c'est fait de même. Mais quand Dieu fait quelque chose, lui, tu peux être sûr que ça va se réaliser, ça va se rendre jusqu'au bout. Alors, Dieu confirme de façon solennelle que sa promesse est scellée et ne peut pas être annulée. Dieu précise même l'étendue et les frontières du pays qu'il va donner. Puis, fleuve d'Égypte jusqu'à... Il donne exactement l'endroit où lui-même, Dieu, établit les frontières du pays qu'il va donner à Israël. Alors, Dieu, dans les versets 19 à 21, veut rappeler à Abraham que son alliance va s'accomplir, que ses promesses vont s'accomplir malgré les obstacles qu'il va y avoir pour un temps, dans le temps, dans l'espace. Parce qu'on sait qu'au cours de tout le développement de l'Ancien Testament, il y en a eu plusieurs problèmes essayer de faire en sorte que ça ne s'accomplisse pas. Prenez juste un petit peu avant que Jésus arrive. Jésus est obligé de s'en aller en Égypte avec son père et sa mère parce que le roi avait l'intention de tuer l'enfant. Mais Dieu a veillé à ce que ça se réalise. Peu importe ce que les hommes mettaient comme obstacle, ça, c'était pour se réaliser. Alors, il lui mentionne dans les versets 19 à 21 que ces 10 nations-là qui sont mentionnées, le Seigneur va s'occuper lui-même de les corriger. Il va s'occuper lui-même de les juger au moment où lui le jugera important. Et le moment, c'est toujours dans les temps de Dieu, c'est toujours lorsque le comble du péché arrive à son... Le péché arrive à son comble. Quelles sont les applications qu'on peut faire d'un texte comme celui d'aujourd'hui lorsqu'on l'étudie et qu'on médite un peu sur son contenu, sa signification? Moi, je dirais la première, ce serait de louer le Seigneur parce qu'il affermit notre foi lorsqu'elle éprouve des difficultés. La foi d'Abraham, ici, elle éprouve des difficultés. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait des gestes pour fortifier la foi de son serviteur. Il fait la même chose avec chacun d'entre nous, là. C'est important de réaliser ça. Alors, croyons en lui, croyons en sa parole, croyons en ses promesses et croyons aussi en ses bénédictions. Quand on fait une bénédiction le dimanche après, là, quand Dieu dit qu'il va te bénir, il ne faut pas penser que c'est juste des paroles que le pasteur a envoyées dans les airs comme ça. Là. Dieu dit qui va te bénir. Il faut réaliser que quand Dieu parle, qu'il dit quelque chose par rapport à une parole qu'il a déjà annoncée, ça s'accomplit. Deuxième application, c'est qu'il faut réaliser comme croyant que le temps d'attente et la souffrance font partie du plan de Dieu. On le voit par exemple par les oiseaux de proie qui cherchaient à vouloir manger les pièces. Là. C'était comme une façon symbolique de parler des problèmes que le croyant va rencontrer aussi dans son pèlerinage. Alors la lenteur apparente de Dieu et les souffrances de son peuple à travers l'histoire ne compromettent nullement le plan divin. Au contraire, il comprend que la souffrance est le passage obligé du peuple de Dieu pour entrer en possession de son héritage. Si un chrétien vit 40-50 ans de vie chrétienne puis qu'il n'a pas souffert, là, vous me le présenterez, j'aimerais bien ça le connaître. La souffrance fait partie de notre vie de croyant. Et le Seigneur permet ces choses-là dans le but de nous fortifier et de nous faire grandir dans la foi et dans le but de l'honorer. Parce qu'il corrige des choses en nous quand il fait ça. Troisièmement, la mort n'est pas un obstacle à la paix et à la bénédiction future. Abraham aurait bien pu dire, « Ben oui, mais tu me l'as promis, puis là tu es en train de me dire que moi je vais mourir. » Il a dit, « Tu vas mourir. » Puis il est mort longtemps après qu'il lui a fait cette promesse-là, 100 ans après. Mais il dit, « Tu vas mourir. » Puis ce n'est pas à cause qu'il est mort que qu'est-ce qu'il a promis concernant la venue du Messie, ça ne se réalisera pas. Alors, il faut comprendre, nous aussi, que la mort n'est pas un obstacle à la bénédiction future. N'est-il pas étrange que Dieu, après avoir promis à Abraham une nombreuse descendance et la possession du pays, lui dise que ses promesses ne s'accompliront que bien longtemps après sa mort? Je me mets à sa place, là. Si tu te fais promettre ça par Dieu, ça a pris 100 ans, puis là, tu n'as pas vu, t'as pas vu tout ce que Dieu t'a promis, mais il faut quand même que tu donnes ta foi au Seigneur. Le Seigneur va réaliser, un peu comme quand il nous dit aujourd'hui sa deuxième venue. Personne ne doute, si on est un vrai chrétien, personne qui doute que le Seigneur va revenir. Mais à quelque part, au début, déjà dans l'an 90, 100, 120, 200, dans les premiers siècles, tout le monde, tous les croyants étaient persuadés que le Seigneur était sur le bord de revenir. Puis nous, on est rendus en 2017, puis il n'est pas revenu encore. Est-ce que ça veut dire qu'à cause qu'il y a eu du temps qui nous semble très long et interminable, qu'il ne réalisera pas ce qu'il a promis? Bien entendu, on sait qu'il va le réaliser. Alors, comment Abraham peut-il mourir en paix alors que tant de promesses sont encore à venir? Parce qu'il croit en Dieu, il voit l'accomplissement de loin et se réjouit de sa postérité future. Au-delà de la mort, il contemple le jour où il aura part à ses bénédictions. Comme Abraham, tous ceux qui s'appuient sur le Seigneur Jésus pour leur salut attendent une patrie meilleure, la patrie céleste. Que l'Éternel soit béni, loué et adoré pour sa fidélité inébranlable. Amen.